Prévé, père Philippe, 12 janvier 1983, Rimont.
Tout d'abord, vous demandez de prier pour la décision qu'il faudra prendre ces jours-ci pour la maison de la seconde maison, pour supprimer le groupe de Fribourg et la rentrée normale de tous l'année prochaine en France. Alors il faut prier pour ça, parce qu'il y aura des décisions qui devront se prendre ces jours-ci. C'est pas si commode que ça de trouver une seconde maison. On ne sait pas. Après, on verra après comment il faut diviser ces deux maisons. Ce qu'il faut, c'est d'y en avoir deux. On avait pensé tout mettre dans la même maison, mais au fond, ça semble un peu trop lourd. Alors, il y a chez Monseigneur Cuminal, Saint-Flour, hein, vous connaissez Saint-Flour, chez Monseigneur Cuminal, il y a une maison. On a fait une première descente pour voir. Et n'oubliez pas que c'est Monseigneur Dupuis qui lui-même a fait la démarche d'abord auprès de Monseigneur Cuminal en disant « Je crois que vous avez quelque chose qui pourrait peut-être intéresser la communauté Saint-Jean. » Ce qui montre que les évêques entre eux commencent à manœuvrer et à vouloir aider. Alors, Monseigneur Cuminal a téléphoné aujourd'hui au père Philippe Marie en disant combien il souhaitait, il suppliait qu'on vienne, en disant que son séminaire, que le diocèse de Saint-Flour avait été fondé par des moines et maintenant dans tout le diocèse il n'y a plus que 3 religieux en tout et pour tout. Il n'y a plus de religieux. Et le nombre de prêtres n'est pas très nombreux. Alors, il voudrait beaucoup. Évidemment, c'est un peu loin d'ici. On avait souhaité que les deux maisons ne soient pas trop loin. Après tout, c'est peut-être la meilleure manière de s'entendre, n'est-ce pas ? Qu'il y ait des distances suffisantes. Voudrait-il qu'il faut prier pour savoir si c'est cela qu'il faut prendre. Ben, c'est évident, quand il y a un appel aussi net d'un évêque, parce qu'alors lui, c'est très net, hein, ce ne serait pas simplement « venez, on vous recevra », mais surtout, ne faites pas de ministère. Là, au contraire, c'est juste l'inverse. « Venez, on a besoin de vous, on a besoin d'un milieu de prière. » Alors, si de fait, pour la communauté, on trouve après un lieu plus proche, c'est possible que ça puisse se faire, ça pourra toujours être utile pour un lieu de retraite, les foyers Saint-Jean, je ne dis pas les foyers de charité, mais les foyers Saint-Jean, vous voyez, pour peut-être reprendre des retraites, parce qu'on voit très bien qu'ici, ce ne sera pas commode de faire des retraites. Il faudra un lieu où on puisse vraiment faire des retraites, et qui seront des retraites animées par les pères de Saint-Jean, avec une petite communauté. Peut-être une petite communauté aussi de noblates séculières pour aider. Je voudrais dire qu'il faut prier pour tout ça. Je vous avais dit que j'avais été hier à Paray-le-Monial et en voyant le père Bagnard et en lui disant que bientôt je viendrai. Mais dit alors Rome, quand allez-vous à Rome ? Je ne sais pas, c'est pas encore précisé. Le pape m'a dit, quand je l'ai vu, que vous veniez le lundi de saint. Alors j'ai trouvé ça très bien. Donc le pape a retenu le lundi saint. Le diable l'a dit, ça non, c'est impossible, c'est la communauté Saint-Jean. Bon, ceci c'est pour vous montrer que Saint-Père ne nous oublie pas. Petite question ici, pourriez-vous préciser ce que signifie adorer en esprit et en vérité ? En esprit, est-ce la louange ? En vérité, est-ce la contemplation ? Alors, adorer en esprit et en vérité, je crois qu'il faut le comprendre dans le sens joannique, du reste, à ce point de vue-là, c'est ce que nous devons recevoir, comme une adoration toute transformée du dedans par l'amour. Alors, on dirait en théologie, si vous voulez, la vertu de religion, qui est à la base de l'adoration, transformée dans son exercice par le don de piété. Une adoration qui se fait sous la mouvance de l'Esprit Saint est une adoration en esprit et en vérité. Alors, c'est, je crois, ce vers quoi nous devons tendre. Quand je vous rappelais qu'il fallait ne pas oublier les 7 actes d'adoration, c'est l'occasion, vous voyez, c'est bon de ponctuer sa vie par 7 actes d'adoration. Ne l'oubliez pas, chaque trimestre, il faut le reprendre. Le matin, le soir, pendant la journée, 7 actes d'adoration. Avec un désir que cette adoration donne vraiment par le cœur de Jésus. Nous adorons par lui et avec lui, comme lui-même a adoré le Père. Mais nous adorons avec lui. C'est lui qui adore vraiment en esprit, en vérité. Il faut que nous puissions adorer avec lui le Père, que nous puissions adorer avec lui l'Esprit Saint. Adorer avec Jésus, la très sainte Trinité, en esprit et en vérité, sous le souffle de l'amour, et en toute vérité, c'est-à-dire dans notre néant de petite créature qui accepte de n'être rien en face de Dieu et qui désire que de plus en plus Dieu prenne tout et que Dieu soit tout au plus intime de notre cœur. Alors, voyez, je crois que c'est très important de bien saisir ce que représente cette exigence, parce que Jésus dit ça à la Samaritaine, comme le grand don de Dieu. Le grand don de Dieu, c'est l'eau vive. L'eau vive, ça représente la charité. Et la charité doit transformer en premier lieu notre adoration. Et c'est pour ça que nous devons nous habituer, quand nous voulons faire oraison, je crois qu'il est toujours bon de commencer par des actes d'adoration. Et ça peut durer, toute l'oraison. Faire des actes d'adoration, c'est dire à Jésus qu'on veut l'adorer et qu'on veut reconnaître qu'il est tout pour nous. Et on adore avec lui, et on adore le Père. Et on se met dans cette dépendance totale, radicale d'une créature à l'égard de son Créateur. L'adoration peut impliquer la louange, c'est bien évident. Dans notre vie, tout est lié. Hein. Et alors, il y a la louange, il y a la parole de Dieu qui nous aide pour que de l'adoration, nous montions jusqu'à un regard contemplatif. Et le regard contemplatif revient à l'adoration. Les deux sont intimement liés. Parce qu'une adoration en esprit, en vérité, est portée par la charité, et la charité nous conduit à cette contemplation du mystère de Jésus, à cette contemplation du mystère de la très sainte Trinité. De sorte que je crois que c'est bon pour nous de revenir constamment à ces 7 actes d'adoration par jour, qui se prolongent dans l'oraison du matin, qui se prolonge dans l'adoration, dans l'oraison du soir. Et si on peut faire un petit moment d'oraison supplémentaire, c'est bon aussi que ça se prolonge dans un regard vers Dieu. Jésus nous regarde tout le temps. Alors, soyons dociles à ce regard, parce que c'est un regard qui nous appelle, c'est un regard qui désire que nous soyons tout proche de lui. Je voudrais avec vous continuer un peu ce que nous avions commencé de faire. Comment toute la vie religieuse, la vie monastique, la vie contemplative. Je voudrais avec vous continuer un peu ce que nous avions commencé de faire. Comment toute la vie religieuse, la vie monastique, la vie contemplative doit être reprise à travers le cœur de Marie. Je crois que c'est très important pour maintenir l'esprit de la vie monastique, de faire que cet esprit de plus en plus prenne tout en nous. Et qu'alors, voyez, ce qu'on appelle la vie régulière, il y a une vie régulière, elle soit brûlée de l'intérieur, elle soit d'autant plus régulière qu'elle est brûlée de l'intérieur. Alors à ce moment-là, l'aspect du cadre joue moins, et c'est beaucoup plus la cellule intérieure, c'est beaucoup plus l'exigence de l'Esprit Saint qui nous conduit et qui nous fait vivre de ce que Marie a vécu. La vie monastique n'a pas d'autre rôle dans l'Église que de continuer la descendance de la femme, c'est-à-dire continuer la vie de la Très Sainte Vierge. Tout moine doit vivre le mystère de Marie, et doit vivre le mystère de Marie de la manière la plus forte qui soit. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, voyez, la vie monastique a continué dans l'Église, elle a pris des formes diverses, on sait bien, les cisterciens, la vie des moines noirs ou des moines blancs, n'est-ce pas? Et puis, la vie de la vie Saint Bruno, c'est des formes différentes de la vie monastique, mais c'est toujours la vie monastique qui, dans l'Église, continue. Je crois que l'Esprit Saint réclame pour la communauté Saint-Jean un retour à la source. C'était le désir de Marthe, et le désir à la source, et puis c'est ce que l'Église nous demande. Un retour à la source, c'est un retour auprès du cœur de Marie. Et donc, vivre vraiment tous les éléments de la règle de Saint Benoît à travers le cœur de Marie et dans le cœur de Marie, avec toute la souplesse que ça donne, parce que c'est vécu d'une manière beaucoup plus intérieure. Et je crois qu'il faut s'habituer à cela. Il faut prendre, voyez, le pli que l'Esprit Saint nous demande et désire que nous prenions, de vivre cette vie religieuse que nous essayons de vivre, de la vivre de l'intérieur à partir du cœur de Marie et dans le cœur de Marie. Je crois que c'est la seule manière pour nous de répondre pleinement à l'appel de l'Esprit Saint. Autrement, j'allais dire, c'est pas la peine que la communauté Saint-Jean existe, hein, parce qu'il y a des couvents qui sont beaucoup plus réguliers que nous, c'est assez facile, n'est-ce pas? Il y a des couvents qui sont beaucoup plus, au point de vue régularité, au point de vue austérité. Vous avez vu, on a mis des œufs ce soir, et puis du fromage, hein. Oui, parce que je crois que certains... J'ai peut-être un regard de grand-père, là, je ne sais pas, vous me le direz. Hein. J'ai l'impression que certains sont un peu fatigués et qu'il faut les aider. Il ne faut pas que tous, hein, successivement. Je crois que c'est bon. Il ne faut pas... Vous savez, avant de faire des austérités énormes sur la nourriture, faites des austérités sur le silence. Faites des austérités sur la charité fraternelle. Faites des austérités de ne pas critiquer, faites des austérités en travaillant manuellement, ça c'est bon, c'est positif. Hein. Vous voyez, j'aime mieux ça. Je crois que la Sainte Vierge aussi. Je crois que c'est mieux. Parce que il faut pas manger, comme je vous ai dit, il faut pas comme des goinfres, hein. J'en ai pas encore là. Mais vous nourrir normalement et pour glorifier Dieu. Donc si vous avez un peu plus ce soir, glorifier Dieu, remercier Dieu, tout simplement, parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas, et si Dieu nous le donne gratuitement, on le reçoit gratuitement. Mais ceci, c'est pour vous dire que ce n'est pas cela que la Sainte Vierge réclame de la communauté Saint-Jean. Elle réclame de la communauté Saint-Jean beaucoup plus un cœur entièrement donné à l'amour de Marie, à l'amour de Jésus. Elle réclame un don intérieur de plus en plus fort, une ferveur dans l'oraison, dans la contemplation, et que ce soit là où vous soyez le plus vous-même et le plus heureux même d'être ensemble. C'est plus facile parce qu'on se gêne moins quand on est dans le silence de l'oraison. Mais ça soude les cœurs d'une manière très très forte. Et je crois que c'est ça que la Sainte Vierge doit réaliser. Souder les cœurs, les intelligences profondément dans cette oraison silencieuse, dans la prière liturgique, mais dans l'oraison silencieuse, en premier lieu, c'est cela qui nous permettra le plus d'être des témoins du Christ. Parce que la prière silencieuse nous apprend à être de plus en plus en connaturalité avec la parole de Dieu, d'être de plus en plus proche du mystère de la parole de Dieu. C'est vrai, il faut être la bonne terre. Et être la bonne terre, c'est être le cœur de Marie. Et être la bonne terre, c'est recevoir la parole de Jésus et vivre de cette parole et faire que cette parole leur prenne tout en nous. Et alors, si cette parole s'enracine en nous, ce sera facile de la transmettre aux autres, de la transmettre aux jeunes. Il n'y aura plus besoin de beaucoup d'adaptation parce que on vivra pleinement ce mystère. Et en le vivant dans l'amour, on pourra le transmettre. C'est l'amour qui se transmet le mieux. Et quand il y a un très grand amour, alors la transmission et la communication se fait bien. Je vous avais dit la dernière fois, et je continue, qu'il fallait bien regarder dans le cœur de Marie ce lien si extraordinaire entre la contemplation et la charité fraternelle. Vous voyez, la contemplation, elle est vécue dans l'oraison. Il faut avoir la simplicité, si au début c'est un peu trop dur, un peu trop lourd, faites comme vous a demandé Sainte Thérèse, la grande Sainte Thérèse, emportez tout le temps un livre, emportez tout le temps, ou la Bible, ou un livre d'un écrit d'un saint, pour vous aider, si de fait c'est un peu rude de rester pendant une demi-heure dans le silence, ou trois quarts d'heure dans le silence. C'est pas mauvais, vous savez, comme exigence de rester trois quarts d'heure dans le silence, en essayant de faire que ce silence soit un appel de l'enfant. Alors s'il y a un appel de l'enfant, ce silence va directement, tout droit au cœur de Jésus. Et Jésus nous entend et Jésus répond. Mais ça peut être quelquefois un peu dur, alors il faut prendre, je vous l'ai dit, il faut prendre la Bible ou un écrit de saint, Sainte Catherine, Sainte Thérèse, le bienheureux Henri Suzeau. Un livre que vous aimez, quelque chose que vous avez déjà lu. J'aime mieux pas que les prémices se fassent au cœur pendant l'oraison. J'aime mieux que ce soit, oui, parce qu'il y a toujours un tout petit peu de curiosité. Tandis que quand on l'a déjà lu, la curiosité s'en va, et alors on le prend uniquement pour maintenir notre attention, maintenir notre foi, notre espérance et notre amour. Ce qu'il faut bien comprendre, que si toute l'intensité de notre vie doit être dans l'oraison, elle doit se prolonger dans la charité fraternelle. Et il faut qu'entre nous, il y ait cette charité fraternelle très, très intense. Ah, je voudrais qu'elle soit brûlante, cette charité fraternelle. Voyez ? Et que vraiment, elle soit tellement forte que vous ne puissiez plus supporter certains jugements. Je vous l'ai dit. Et j'y reviens parce que je crois que c'est très important. Jean Vanier dit qu'une communauté n'existe que si elle pardonne. Il a raison de dire ça, c'est très vrai. Une communauté ne peut exister que s'il y a un pardon constant. Alors quand on a pardonné vraiment, on ne recommence pas 5 minutes après. Je sais que ce n'est pas toujours commode, hein. Au moins une journée, n'est-ce pas, c'est déjà quelque chose. Quand on a pardonné vraiment, on veut que les liens personnels puissent se tisser et se retisser parce qu'on s'aime. Même si on a des opinions différentes, même si on est socialiste du côté politique, religieux, vous voyez, ou si on est au contraire, je ne sais pas, solitaire au niveau politique, religieuse, ou si on est, prenez toutes les politiques possibles, n'est-ce pas, ça n'a pas d'importance, faites les applications, parce qu'on a une politique, on a une politique à l'intérieur d'un couvent, ça peut pas être autrement. Chacun en a un petit peu sa vision politique. La vision politique, elle vient de nous. Elle vient de nous, notre vision politique. Or, c'est jamais ce que veut le Saint-Esprit. Ça, je peux vous l'affirmer. C'est jamais ce que veut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a, sur la communauté Saint-Jean, une intention. J'en suis sûr. Et ça, je voudrais que vous vous le rappeliez toute votre vie. L'Esprit-Saint a une intention. Autrement, il n'aurait pas suscité cette nouvelle communauté, cette nouvelle famille religieuse. Parce que ce n'était pas si commode que ça. S'il l'a suscité, c'est parce qu'il a une intention. Une intention pour un choix. Parce que là, l'intention rejoint le choix. N'est-ce pas ? Et donc, il a un choix volontaire sur la manière d'organiser les moyens. À sa manière. Et c'est cette politique du Saint-Esprit qu'on doit demander. Ce gouvernement du Saint-Esprit sur la communauté. Ce gouvernement du Saint-Esprit. Ce n'est pas le gouvernement d'Apollos, ce n'est pas le gouvernement de Paul, ce n'est pas le gouvernement de Pierre. C'est le gouvernement du Saint-Esprit. On a ce privilège-là, vous voyez, puisque le Saint-Père nous attend. Alors c'est un ce privilège-là d'être directement sous la mouvance du Saint-Esprit. Et je crois qu'il faut croire à ça, que l'Esprit-Saint veut former ici, dans ce laboratoire. Il veut former lui-même cette manière dont la communauté doit progressivement avoir son style de vie. C'est vrai, il y a un style de vie qu'il faut découvrir. Et je dis bien qu'il faut découvrir, je ne dis pas du tout qu'il est fait, pas du tout. Il faut le découvrir, le Saint-Esprit le veut. Et de temps en temps, il est bon de le demander au Saint-Esprit, de dire au Saint-Esprit, je voudrais que vous preniez vous-même le gouvernement, parce que ceux qui l'ont, c'est pas très bien si c'est vraiment vous. Alors, il faut demander au Saint-Esprit que ce soit vraiment le Saint-Esprit. Alors après, on supporte plus facilement les limites des instruments. C'est plus facile, vous savez, ça c'est toujours comme ça. Que si on monte très haut, on est très indulgent pour les autres. Tandis que si on va vers le bas, c'est tout à fait difficile. Tandis que si on regarde les instruments de Dieu dans la lumière du Saint-Esprit, ça va mieux. Mais on doit se mettre à l'école du Saint-Esprit pour ce gouvernement. Et ce gouvernement, venu du Saint-Esprit, comme tout gouvernement, c'est ça qui serait intéressant à regarder et à essayer de comprendre cela dans la lumière de Marie. Une théologie de la communauté Saint-Jean. On en avait parlé pendant la retraite. Il faudra y revenir. Une théologie de la communauté Saint-Jean au point de vue du gouvernement de l'Esprit-Saint. Voir comment le Saint-Esprit, lui, agence les moyens. Comment le Saint-Esprit choisit lui-même les moyens et les organise. Parce que la communauté Saint-Jean grandit. Et alors, comme elle grandit vite, il ne faut pas qu'elle perde. Vous voyez, ce que l'Esprit-Saint veut qu'elle ait pleinement et totalement. Alors, il y a un lien là, très très mystérieux, que nous voyons dans le cœur de Marie, le lien entre l'exigence de la contemplation et l'exigence de la charité fraternelle. Ça demandait souvent au Saint-Esprit, parce que ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui a cette politique extraordinaire de lier merveilleusement les exigences de la contemplation, les exigences de la solitude, parce que la contemplation exige la solitude. Vous savez bien, le lien avec Montmorin est pour nous, à ce point de vue-là, très précieux, parce que c'est nous rappeler que nous sommes liés à certains qui consacrent leur vie totalement dans le silence. Le lien avec Bethléem est aussi très précieux, parce que c'est important de comprendre qu'il y a ce lien vital, pas un lien extérieur, pas un lien secondaire, mais un lien vital, ce lien avec certains petits Carmels, ce lien avec les Clarisses, ce lien avec nos sœurs d'Azay, de Brancion. C'est important de comprendre que c'est des liens qui ne sont que l'Esprit Saint tissé. Et si l'Esprit Saint a voulu tisser tout ça, c'est pour nous montrer qu'il y a là une exigence fondamentale de contemplation. Ça, c'est très très important. Et à partir de là, naît l'exigence de la charité fraternelle. Et je dis bien à partir de là, parce que c'est vrai, c'est dans le cœur du Christ, c'est dans le cœur de Marie qu'on apprend à aimer ses frères. C'est la seule manière de les aimer vraiment et de les aimer pour l'éternité. Tandis qu'autrement, forcément, ça ne peut pas être autrement, forcément, on les juge de l'extérieur. Alors, les sensibilités sont différentes. Il faut demander ça très fort. Pardonner pour aimer plus. Et aimer plus pour que, justement, il y ait ce regard divin sur chacun d'entre nous. Et aimer ce regard divin. Et quand le Saint-Esprit nous le donne au milieu de l'oraison, c'est très beau. Ce sont des saintes distractions de porter tous ses frères dans l'oraison. Parce que c'est vrai, on a tous les porter. Et le Saint-Esprit veut que nous nous portions mutuellement, que nous nous offrions mutuellement. Cette charité fraternelle, qui est un mystère, hein, c'est un mystère, dans le cœur de Jésus, nous choisir comme Jésus nous choisit, nous aimer comme Jésus nous aime, arriver à se regarder dans la lumière du Christ, ça ne se fait pas tout seul, l'Esprit Saint doit nous apprendre cet exercice divin de la charité fraternelle sous la mouvance du don de sagesse et sous la mouvance du don de piété. Se regarder dans la lumière de Jésus, c'est beau. Parce qu'on est tous consacrés à Jésus. On désire tous l'être. Et on désire l'être pleinement et totalement. Et donc on doit avoir ce regard d'amour, parce que c'est un regard d'amour. Les uns sur les autres, comme des amoureux peuvent se regarder. Et je vous affirme que les amoureux, ça se regarde bien. Alors il faudrait se regarder comme ça, hein. C'est se regarder avec cette intensité d'amour qui vient du Saint-Esprit. Parce que ça vient du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit veut que nous ayons cette intensité de regard les uns par rapport aux autres, où il n'y a rien d'exclusif. C'est là, on voit tout de suite que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint fasse des liens plus forts de l'un avec l'autre, c'est normal. Il n'y a pas d'égalité dans l'exercice de la charité fraternelle. Heureusement, ce serait terriblement ennuyeux. Ça ne viendrait pas du Saint-Esprit, vous savez, ce ne serait plus personnel. Ce qui est personnel, justement, a des notes particulières. Il faut ces liens, il ne faut pas en avoir peur. Quand le Saint-Esprit fait ces liens très forts, ce qu'il faut, c'est toujours les offrir. Pour n'avoir aucun droit de propriété. C'est ça le plus grand danger. C'est de croire que son frère devient notre avoir. Alors ça, c'est effrayant. C'est effrayant pour celui qui est possédé et effrayant pour celui qui possède. Parce que c'est vrai. Donc il faut l'offrir. Et plus l'amour est fort, plus il faut que l'offrande soit grande. Et plus, je crois aussi, il ne faut pas hésiter, au point de vue spirituel, d'en parler à celui qui, pour nous, est le représentant de l'Esprit-Saint, celui qui, pour nous, est l'instrument de l'Esprit-Saint, celui qui doit nous aider à clarifier, à purifier notre cœur dans la charité fraternelle. Mais il faut que cette charité fraternelle soit très forte. Vous savez bien, il faudrait qu'on puisse, quand on vient ici, dire « Voyez comme il s'aime » et le dire en toute vérité, et que ce soit vrai. Et ça, ça dépend de chacun d'entre nous, vous savez. Et le Saint-Esprit peut convertir votre cœur ce soir, et tout à l'heure durant le Salve Regina, pour que vraiment, vous aimiez chacun avec cette lumière. Ça n'empêche absolument pas qu'on voit qu'on a des opinions différentes. C'est très vrai, la charité fraternelle est bien au-delà. Qu'on ait des opinions différentes, c'est bien évident. Heureusement qu'on ait des opinions différentes, parce que ça permet quelquefois de se compléter. Qu'on doit faire, en priant les uns pour les autres, en se pardonnant tous les jours, surtout s'il y a des petites blessures. Alors faut se pardonner très vite. Alors là encore, se pardonner en face de Dieu. Quelquefois c'est bon de mettre un petit mot, parce qu'on est des êtres sensibles. Alors on met un petit mot, je vous ai blessé, alors pardon. Tout est brûlé dans le cœur de Jésus, de mon côté, et j'espère du vôtre aussi. Et puis on attend le mot qui ne vient pas toujours, ça prend autant. Tout est pardonné. Et quand l'autre ne répond pas, c'est le Christ qui répond. Alors, c'est pas une raison pour ne pas répondre. Parce que quelquefois on dira, mais comme ça Jésus va répondre. Non, mais c'est vrai que c'est bon de temps en temps. Parce que. Vous savez, c'est quelquefois, on est quelquefois des sphinx les uns pour les autres. Des sphinx chrétiens. Alors c'est au carré. Et alors on se dit, mais est-ce que vraiment, il y a de la charité pour moi dans un... Surtout après un petit moment où on a eu une petite chose un petit peu difficile. Là, il ne faut pas être des sphinx les uns pour les autres, je ne crois pas du tout. Qu'on se sourit en se rencontrant, c'est normal. Vous voyez, ça fait partie de la modestie des regards. Vous voyez, ce sourire un peu et pas être une tête de bois. C'est ennuyeux, c'est non escapable, sa tête de bois, n'est-ce pas? Au point de vue de la charité, elle n'est pas capable d'être sanctifiée, d'être purifiée. Alors, il faut cette espèce de simplicité du reste. Comme dans une famille, je sais bien que dans une famille il y a des moments où l'aîné a tête de bois parce que ça arrive, ça peut très bien se faire dans une famille humaine, mais nous sommes une famille divine, alors on doit essayer. Je sais bien que c'est pas toujours commode quand on souffre beaucoup, c'est pas toujours commode. Il faut demander cette grâce à Marie permet cela. Marie permet que la souffrance, on la porte au plus intime de son cœur. On la met dans le cœur du Christ. On la met dans le cœur de Marie. Et dans la mesure où on la met dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Marie, alors à ce moment-là, on peut, vis-à-vis des autres, ne pas être pion. C'est terrible d'être pion. Vous voyez ? C'est-à-dire d'avoir l'impression que on se regarde comme ça pour voir si... Non, non, non. On doit avoir cette espèce d'amour vrai et d'amour qui se traduit simplement. Ça existe, je rappelle, je ne dis pas du tout que ça n'existe pas, ça existe. Mais on tend toujours vers quelque chose de plus. S'aimer plus profondément, s'aimer davantage dans le cœur de Marie, comme Marie. Se servir des petits signes que le Seigneur donne. Marie s'est servie de ce signe. Élisabeth attend un enfant. Alors évidemment, pour vous, ce sera d'autres signes, c'est évident. Mais ce seront des signes semblables. Vous saurez que, de fait, il y a tel ou tel qui souffre. Ça Ça se voit tout de suite, c'est facile à comprendre. Ou bien la Providence vous met à côté de tel ou tel. On ne choisit pas trop ses places. Les places pour les coups, par exemple. On ne les choisit pas trop. Ceux qui ont des oreilles dures, il vaut mieux qu'ils se mettent devant, c'est évident. J'ai l'oreille dure, alors il y aurait une place réservée. C'est... On faudrait mettre ça pour les mutilés de guerre, n'est-ce pas? Alors, on mettrait des... Pour les oreilles dures, ils auraient le droit d'avoir... Mais les autres, ne pas s'éviter, s'aimer profondément. Et alors, on est heureux, et c'est l'occasion, souvent. Parce que quand on pâtit dans la même tranchée, vous comprenez, on est lié. On a subi un cours difficile, et alors, on est lié d'autant plus que qu'on l'a subi. Il faut demander à la Très Sainte Vierge de nous donner ces délicatesses. Ces délicatesses dans la charité fraternelle, de faire que on peut tout de suite comprendre que ceux qui sont proches de nous nous aiment et nous aiment vraiment, qu'il y a une confiance réciproque et qu'on est là pour eux. C'est vrai, on est là pour eux. Chacun d'entre vous, vous êtes pour tous. Ah, vous voyez, c'est merveilleux, hein. Plus la communauté grandit, plus il y en a pour nous. C'est extraordinaire, ça. Et c'est vrai, dans la charité fraternelle, on est serviteurs les uns des autres. Et on doit être serviteurs les uns des autres. Et donc, on doit s'aimer avec cette qualité, cette serviabilité, qui fait que on est prêt à rendre des petits services les uns pour les autres. Et que si on nous le demande, même si on est un peu fatigué, si on est trop fatigué, on le dira. Mais autrement, on est prêt à aider, soutenir. En toute hâte, hein, ça fait partie de la charité fraternelle. Marie, en toute hâte, se met au service d'Élisabeth. Marie ne se les fait pas dire deux fois. Mais le petit signe a éveillé en elle tout de suite ce désir d'être au service. La charité fraternelle nous met au service. Alors, au service avec intelligence, au service avec générosité, au service en portant ceux qui auraient besoin de nous et en les aidant. Il faut qu'il y ait de plus en plus ces liens, ce tissu de charité fraternelle. C'est ça qui fait la vie commune. Alors, vous voyez, c'est là, de nouveau, le gouvernement du Saint-Esprit. De nouveau, la manière dont l'Esprit Saint doit nous apprendre cette incarnation de la charité fraternelle. C'est l'Esprit Saint qui nous apprend avec Marie l'incarnation de la charité fraternelle. Alors cette incarnation de la charité fraternelle, oui, c'est le regard, c'est le sourire, c'est la parole. Quand on dit un petit mot, ne pas avoir la langue trop dure. Si on l'a par nature, une langue bien aiguisée, n'est-ce pas? Parce que juste avant d'entrer, on faisait des exercices pour cela. Et on s'amusait d'avoir une langue bien aiguisée. C'est vrai, on voit tout de suite, alors paf, paf, paf. N'est-ce pas? On voit tout de suite, et c'est très, très désagréable, ça. Parce qu'alors, on n'osera plus jamais dire un mot. Un tel, dès qu'il dit ça, je suis obligé de rentrer, parce que moi, je dis toujours des bêtises, alors c'est gênant. Alors, il faut qu'il n'y ait pas... faut pas qu'il y ait ça. Faut pas qu'il y ait cette gêne. Et c'est là où on doit demander à la Très Sainte Vierge l'incarnation de la charité fraternelle dans le fait de ne pas dire du mal, ne pas juger. On peut juger encore une fois telle ou telle opération, tel ou tel acte, c'est différent ça. On peut très bien, quand on demande l'avis, dites ce que vous pensez. Mais on dit très bien, on le dit simplement, parce qu'on doit le dire. La charité fraternelle n'enlève pas notre manière de regarder la politique du Saint-Esprit sur une communauté, la manière dont le Saint-Esprit veut gouverner et incarner. Et c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, l'incarnation, en Marie. Vous voyez bien, c'est comme ça que le Verbe s'est incarné. Il s'est incarné en Marie. Eh bien, notre charité fraternelle va s'incarner par l'opération de l'Esprit Saint en Marie. Et je crois que c'est très important de comprendre cela. Alors c'est là où vous voyez l'exercice qu'on doit avoir les uns envers les autres au point de vue de la charité fraternelle, au point de vue des récréations, on a laissé plus de liberté exprès pour que vous puissiez mieux choisir et qu'il y ait plus d'autonomie, plus d'initiative dans la charité fraternelle, au sens fort, qu'on ne soit pas uniquement des êtres passifs, mais qu'il y ait dans la charité fraternelle des initiatives, des petites initiatives, très simples, qu'on soit attentif à cet épanouissement de la charité fraternelle. C'est tellement important. C'est par là que la vie commune sera plus légère. Parce que c'est la charité, c'est le levain qui fait lever la pâte. Vous comprenez que si le levain est plus puissant, la pâte sera plus légère. Et elle sera alors quelque chose de particulièrement léger. Il faut demander ça très fort à la Très Sainte Vierge et à l'Esprit Saint. Vous voyez, cette incarnation, il n'y a pas d'incarnation de la contemplation au sens fort. Mais il y a une incarnation de la charité fraternelle. La première incarnation de la charité fraternelle, c'est la vie liturgique. Il ne faut pas l'oublier. La vie liturgique est commandée par cette incarnation de la charité fraternelle. Où à ce moment-là, cor unum et anima una. Quand on chante Dieu, on doit avoir un seul cœur, une seule âme. Il ne faut pas toujours avoir une seule voix. Mais avoir un seul cœur, une seule âme, avoir ce désir ardent que la charité fraternelle s'incarne dans la louange à l'égard de Dieu. Voyez auprès d'Élisabeth, le Magnificat, c'est bien le fruit direct de cette charité fraternelle entre Élisabeth et Marie, entre Marie et Élisabeth. Il y a le Magnificat qui jaillit là. Et ça, c'est important, c'est ce que nous apprend Marie, ça. Elle nous fait comprendre que la prière liturgique, le Magnificat, c'est la première liturgie chrétienne, hein, c'est la louange chrétienne en premier lieu, et tout a commencé par là. Eh bien, Marie nous fait comprendre que la prière liturgique jaillit de l'exercice de la charité fraternelle. Ensemble, on veut louer Dieu. Ensemble, on veut le remercier. Ensemble, on veut le prier, lui demander de nous aider. C'est ensemble qu'on doit faire cela. Et c'est pour ça que on ne peut pas avoir une vraie prière liturgique sans qu'il y ait le pardon mutuel. Il faut qu'il y ait ce pardon. Mais il faut que cette prière liturgique, voyez, soit de plus en plus brûlante, qu'on puisse découvrir cette unité des cœurs, des âmes qui se réalise dans la charité fraternelle. La prière liturgique pour nous, voyez, doit être en premier lieu cela. C'est pas premièrement une œuvre artistique. Non, parce que ce n'est pas le théâtre. On ne demande pas aux acteurs en premier lieu de s'aimer du charité fraternelle intense. Je ne sais pas ce qui arriverait si c'était ça comme condition sine qua non, ça n'irait pas grand-chose, n'est-ce pas ? On leur demande que ce soit beau, on leur demande que le point de vue artistique soit respecté et qu'on ne fasse rien qui puissent nuire les uns par rapport aux autres. Et donc c'est l'art qui commande l'unité. Pour nous, c'est la charité fraternelle qui commande l'unité. Et ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. C'est une œuvre de charité fraternelle. J'aimerais que vous en soyez convaincus et que chaque fois qu'on récite un office ensemble, il y ait cette demande à la Vierge Marie de faire que nous soyons tous hein, pour elle pendant quelques instants, et ça ne dure pas longtemps, nos offices ne sont pas longs d'une manière trop longue, donc on ne peut pas se lasser. Et c'est bien, c'est par miséricorde pour vous, n'est-ce pas, que la Sainte Vierge demande ça et que l'Esprit Saint donne ce rythme-là. Alors, c'est pour que je, pendant ces quelques instants, pendant la messe, pendant l'aude et vêpres, pendant compli, pendant le Salve Regina, il y ait vraiment cette intensité d'amour. Alors, à partir de là, on désire que ce soit beau, que ce soit bien dit, que ce soit agréable à entendre pour les autres. Mais vous voyez, il n'y a pas besoin d'autres qui entendent, hein, puisqu'on s'entend tous mutuellement et on s'offre tous mutuellement. Et c'est suffisant. Mais il faut avoir cette petite attention, que ce soit quelque chose qui soit grand. Parce que pour Dieu, ça doit toujours être grand. On n'a pas le droit de choses un peu chiches, un peu petites. On est un peu retourné sur nous-mêmes et un peu égoïste. Non, il y a un caractère de grandeur dans la prière liturgique. Et ce caractère de grandeur dans la prière liturgique provient justement de cette charité, de grandeur, de profondeur. Ça jaillit de source. Et la source, c'est notre contemplation à la charité fraternelle. Elle est double. C'est la contemplation. C'est pas seulement la contemplation, vous voyez, parce qu'il s'y avait que la contemplation, on se tairait. On reste dans le silence. C'est donc la contemplation et la charité fraternelle. Et la charité fraternelle veut justement qu'on fasse une œuvre commune. C'est une œuvre, opus dei. Hein. C'est une œuvre, la prière liturgique. Et donc elle doit être bien faite avec amour. Ça implique un petit travail, c'est vrai. Ça peut être fatigant quelquefois, quand on est déjà un peu fatigué. C'est pas la prière liturgique, normalement, qui repose, non. Surtout pour les chantres. Pour les chantres, c'est lourd, parce qu'ils ont des responsabilités, ils doivent porter, et alors ils doivent sentir quand c'est lourd et quand c'est léger. Mais c'est vrai, ça. Mais ils ne disent rien, parce qu'ils supportent ça. Ils vous le disent aux répétitions, c'est très bien, en disant que c'est un peu lourd, un peu pesant. C'est leur fonction, acceptée. Ils ont une mission dure. Alors il faut les aider. Il faut les aider, parce que c'est vrai. Alors ceux qui ont de belles voix, pas des voix de solistes, n'est-ce pas ? Vous voyez ça, ça arrive quelquefois. Ah, oh, j'ai une très belle voix, on va toujours considérer comme une voix. Alors, très bien. Et puis si on me fourre dans le coin, oui, parce que vous avez une voix... Vous ne vous harmonisez pas avec les autres. Alors, il ne faut pas. C'est vrai, c'est la charité fraternelle qui consiste justement à se perdre. À se perdre sans se perdre. Hein. Vous voyez bien, la qualité de chacun doit rester. La qualité, dans la charité fraternelle, ça doit être une œuvre qualitative. Et la prière liturgique est une œuvre qualitative. Parce qu'elle manifeste ce qui est au plus intime de notre cœur. Et on le manifeste pour glorifier Dieu, pour glorifier le Père. Et on le manifeste ensemble, dans la plus grande unité qui soit. C'est important, ça, c'est un témoignage. Alors même quand il n'y a personne, hein, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous devez chanter aussi bien le Salve Regina quand il y a du public, que tant qu'il n'y en a pas. Vous voyez, c'est aucune espèce d'importance. Hein, parce que notre public est céleste, il est angélique. Alors c'est merveilleux, oui, à propos de public, il faut que je vous dise que mercredi prochain, alors c'est la Belgique qui bouge, la Belgique demande de venir faire un reportage. Alors on est bien obligé d'accepter ça, c'est au début, ne vous inquiétez pas, ce sera discret, ce ne sera pas du tout la même chose, c'est semblant faire un reportage sur ce que c'est que la communauté Saint-Jean. Parce que les Belges se demandent ce que c'est que la communauté Saint-Jean. Alors, c'est quand même bon de pouvoir leur dire ce que c'est, n'est-ce pas ? Alors, on leur dira. On prendra peut-être pas les mêmes que la dernière fois, pour varier, pour montrer que dans la communauté Saint-Jean, il n'y a pas que des vedettes, n'est-ce pas ? Il y en a aussi d'autres. Ça fait partie de la charité fraternelle, n'est-ce pas ? De lier tous les uns aux autres et de faire que tous on soit cor unum et anima una. C'est très important. Alors, demandez ça à la Vierge Marie. Il faut lui demander que nos offices, notre prière liturgique, soit vraiment de l'intérieur, brûlé par un grand amour. Que ce soit ça la caractéristique. Je crois qu'au point de vue qualité du chant artistique, on soit toujours battu. C'est sûr. Vous savez, quand on fait des études intellectuelles, on ne peut pas faire les deux choses en même temps, autant. On ne peut pas faire des répétitions tout le temps, c'est impossible. Alors il le faudrait. Si on voulait arriver à quelque chose qui soit merveilleux, qu'on nous mette sur disque, hein, les disques de Rimond, vous voyez ça? Alors, ce serait extraordinaire, hein, quelque chose d'étonnant. Alors, ça n'est pas encore là, nous en... on veut peut-être mieux. Mais c'est... Alors, nous devons nous chercher autre chose. Chercher, je crois, ce que Marie nous fait comprendre. Le Magnificat qui jaillit de son cœur dans la charité fraternelle. Et c'est dans la charité fraternelle qu'on doit découvrir cela, découvrir cette intensité de l'amour. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment... très très brûlant dans notre cœur, cette flamme d'amour qui provient du cœur de Marie et du cœur de Jésus et qui brûle nos cœurs et qui fait que notre prière liturgique alors a une qualité d'amour. C'est cela, je crois, le propre d'une communauté qui se veut contemplative, qui doit être contemplative et qui tend à être apostolique. Alors il y a un certain dépouillement nécessaire, impossible autrement, le dépouillement du contemplatif, le dépouillement de l'apôtre. Il y a un certain dépouillement, mais ce dépouillement permet une plus grande intensité d'amour. Vous voyez, ce serait ça l'art chrétien, vous savez, l'important d'essayer d'étudier. Nous verrons dans les cours qu'est-ce que c'est que l'art chrétien. Et c'est à partir de là qu'on devrait comprendre ce que représente le point de vue de la liturgie. Qu'est-ce que c'est que l'art chrétien? La liturgie, c'est au cœur de l'art chrétien. Et c'est l'art chrétien dans ce qu'il doit être le plus vécu, et le plus intensément vécu. Or, l'art chrétien n'est art chrétien que par l'inspiration. L'intensité de l'inspiration. Pour nous, c'est la charité fraternelle. Ce n'est pas une inspiration extraordinaire au point de vue artistique, mais c'est une inspiration d'amour qui nous unit et qui fait qu'ensemble, nous voulons louer notre Père. Nous voulons, avec Marie, louer notre Père. Nous voulons apprendre avec Marie à réciter les psaumes. C'est avec Marie qu'on doit réciter les psaumes. Marie les a récités, les psaumes. C'est pour ça qu'on continue de les réciter, vous comprenez bien. C'est pas pour autre chose. Si Marie avait dit, ah non. Non, on ne met pas de nouveau vin dans de vieilles outres. Alors les psaumes, c'est ancien. Marie avait un tel respect des psaumes, un tel amour des psaumes. Mais alors elle les récitait à sa manière, hein. Écoutez un tout petit peu. Elle les récitait à sa manière. Elle les récitait sûrement pas comme les rabbins et comme les spécialistes de Jérusalem. Elle est récitée sous le souffle de l'Esprit Saint, avec une beaucoup plus grande simplicité. Et alors, elle découvrait à travers les psaumes, c'est pas toujours commode, hein, elle découvrait à travers les psaumes une louange pure, une demande. Elle découvrait à travers les psaumes la politique de l'Esprit Saint, la manière dont l'Esprit-Saint gouverne son peuple, la manière dont l'Esprit-Saint nous gouverne, c'est ce qu'elle découvrait. Et le Magnificat, pour ça, est magnifique, parce que c'est le petit résumé de tout, dans une très grande simplicité. Et il faut demander à Marie de nous apprendre à vivre des psaumes, à les chanter, à les aimer. Et avec Marie, ça se fait très vite. C'est vrai, il pourrait y avoir une introduction exégétique au psaume, mais il faudrait que ce soit fait par quelqu'un qui les connaisse de l'intérieur et les a vécus de l'intérieur avec Marie. Alors quand on les a vécues avec Marie, ça prend cette note spéciale. C'est important pour nous, puisque nous les récitons. Mais ne vous inquiétez pas trop, vous savez. La grande sainte Thérèse savait très bien que ses sœurs ne comprenaient rien du tout au psaume quand elle les récitait. Elle disait, au moins le Gloria, c'était quelque chose. Alors toute l'intensité était pour le Gloria, pour la très sainte Trinité. C'était merveilleux, oui, comme ça ils étaient baptisés les psaumes, n'est-ce pas ? Et ils prenaient cette note chrétienne, parce que c'était pour le Gloria qu'il y avait tout. Et c'est vrai, le Gloria n'est pas une conclusion, c'est un sommet. C'est un sommet, donc ça tend vers le Gloria. Et le Gloria doit être là. Et le Gloria doit prendre une espèce d'ampleur très particulière pour que nous puissions comprendre que ce n'est pas une conclusion. Quand on récite le Gloria à toute vitesse, vous savez, alors on a l'impression vraiment vite, vite, il faut terminer. Tandis que si on récite le Gloria un peu plus lentement, alors on comprend que c'est le sommet. Et tout tend vers cela. Alors on essaie de comprendre dans la lumière du Gloria, parce qu'il y a le Gloria toujours donc qui illumine. Et Gloria, c'est ce que Marie aimait le plus, hein. C'est sûr, c'était la louange à la très sainte Trinité qui était la plus profonde dans son cœur, et c'est ça qui donnait la signification à tout le reste. Alors, il faut demander à Marie de nous apprendre à vivre des psaumes et de la prière liturgique comme l'œuvre commune. C'est le bien commun d'une communauté monastique. C'est le bien commun d'une communauté monastique. C'est le premier bien commun. Alors on doit tous coopérer à cela.
Amen.
Père, Fils et Saint-Esprit, par l'intercession du cœur douloureux et immaculé, vous bénisse et vous garde à jamais.
Amen.